C'est parti pour l'épisode 7. Retrouver du temps, partie 1. Alors, suite à tout ce qu'on a pu évoquer, tu peux avoir l'impression que c'est plus facile sur le papier et bien plus compliqué dans la réalité à mettre en œuvre. Et parfois, c'est plus confortable de se plaindre plutôt que de prendre le miroir et de regarder ce qui ne va pas pour qu'on râle autant. Écouter nos émotions, c'est d'abord entendre l'alerte immédiate de quelque chose qui ne va pas, selon Maud Ankawa. Bien souvent, c'est qu'il y a un déséquilibre dans la matrice. Une première clé pour s'en sortir, c'est d'abord de quitter le statut de victime qui nous enferme dans un schéma enfantin où on attend des autres qu'ils trouvent et mettent en œuvre les solutions. On attend notre sauveur. Et quand ça ne va pas comme on voudrait, ils deviennent nos bourreaux. Et ainsi, tour à tour, nous nous enfermons dans ce triangle de Karpman. Prendre la responsabilité de notre bonheur, de notre vie, passe par devenir pleinement adulte responsable. Une psychologue m'a donné il y a quelque temps l'image d'un tabouret à quatre pieds. Elle me disait « Les pieds du tabouret sont les actions importantes pour répondre à nos besoins de façon personnelle. Moins on prend le temps de répondre à nos besoins prioritaires et moins le pied va être bien vissé sur le tabouret. Ainsi, il commence à tanguer, à avoir un petit peu de jeu, petit à petit, et tout l'enjeu est de rectifier le tir avant que l'un des pieds du tabouret ne lâche. Car sur trois pieds, ça tient encore tant bien que mal, mais si un deuxième pied vient à lâcher, c'est le déséquilibre total. Et là, on tombe. » Alors je t'invite à identifier les pieds de ton tabouret. Qu'est-ce qui te permet d'être en équilibre dans ta vie et de te donner dans ta famille, dans ton travail, dans des associations, bref, là où tu es planté. Car on est bien d'accord que je ne te parle pas de rayonner pour toi et ton petit nombril, mais bel et bien pour que tu te sentes pleinement à ta place dans ta vie et que tu influes sur le monde autour de toi. Et j'imagine que, toi comme moi, nos vies ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Personnellement, pour cette saison de ma vie, j'ai identifié d'abord ma prière personnelle, réduire mon temps d'écran, au moins le matin. Vraiment, je suis en chemin. La créativité, que ce soit en cuisine, au jardin, en broderie, en aquarelle, en dessin, ça passe par mes mains. Et enfin, observer la nature, ses couleurs, ses couchers de soleil, les chevreuils dans les champs et si possible, en marchant seul. Et cela va de pair avec une hygiène de vie la plus vertueuse possible. Car comment me lever le matin si je me couche si tard le soir ? Dans son livre « Tu penses quoi de la vie, mamie ?», Victoria Guillaumont reprend certains des podcasts qu'elle a enregistrés avec des personnalités, notamment avec Christophe André. Voici ses propos. « Il y a des façons d'être plus serein, qui relèvent de l'hygiène de vie. La sérénité commence dans le corps. Si je bois trop d'alcool, que je fume, que je dors assez peu, que je ne suis pas au contact de la nature, j'aurai du mal à avoir un certain équilibre. Une vie humaine où l'on ne s'impose rien, où on ne fixe aucune contrainte, sur laquelle on n'exerce aucun contrôle, c'est une vie qui nous expose à être ballottée par les gens, par les événements, par les circonstances, par les émotions. Pourquoi pas ? Mais on sera moins acteur et plus suiveur. Ainsi, se donner un cadre clair, précis, orienté vers un but comme on en parle depuis le premier épisode, c'est ce qui nous permet d'être acteur de notre vie. Car on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on fait les choses. Oui, mais c'est bien quand tout va bien, mais quand on traverse des difficultés, on fait comment ? Julia Freund, dans un article « La vie et mouvement du flow » de septembre 2022, nous dit « Quand nous avons beaucoup de nouveautés, de stress et d'informations à gérer, nous avons tendance à laisser tomber ce qui nous recharge en énergie. Il faut donc bien veiller à conserver ces choses qui nous nourrissent. » C'est ce que Christine Levicki appelle prendre soin de sa source. Même s'il y a toujours quelque chose qui semblera plus important, plus urgent ou prioritaire, prendre soin de soi ne demande pas d'avoir de longues heures devant soi, et il y a des moyens de retrouver du temps. Et en premier lieu, pour cet épisode 7, je te propose un zoom sur nos chers écrans et en particulier le smartphone, avec comme compagne musicale France Gall et son titre « Débranche ». Je suis désolée d'enfoncer une porte ouverte. Il faut arrêter de vouloir combler le vide sur notre téléphone dès qu'on a 5 minutes devant nous. Je dis bien « nous » parce que je m'inclus pleinement dedans. Je sais combien c'est difficile car je suis moi-même en chemin. Je reprends avec Christophe André au micro de Victoria Guillaumont dans le podcast Nouvel Œil. On apprend à être soi en se mettant en retrait de l'action, du loisir, du lien social ou en étant dans une simple présence. C'est plus compliqué aujourd'hui depuis l'apparition des écrans, parce que ceux qui remplacent les temps de vie intérieure, ce sont les temps d'écran. Cette addiction aux écrans est revenue tellement de fois dans les échanges que j'ai avec les personnes qui me suivent, c'est une vraie question que d'arriver à s'en libérer. Et Fabien Olicard, dans son livre « Votre attention et votre super-pouvoir », explique que cette addiction génère du manque. L'ennui devient une souffrance et le cerveau cherche ce qui pourra nous donner une autre dose le plus rapidement possible. Or, la technologie a organisé un commerce basé sur notre attention en portant atteinte à notre système cognitif un peu plus chaque jour. Nous sommes victimes d'un système bien huilé et ce commerce abîme notre capacité à nous concentrer et à retrouver de l'intériorité. Les ressources pour en sortir sont coûteuses sur le plan cognitif car nous cherchons à ne pas fournir d'efforts. Ainsi, un business de la facilité s'en est créé. Nous sommes de plus en plus impatients et la lenteur est plus qu'inconfortable. Alors, je te propose un panel de solutions plus ou moins radicales, glanées ça et là, certaines testées, d'autres non, pour être moins sur nos téléphones. Tout d'abord, supprimer les notifications. C'est la base, mais vraiment, si t'as moins le bip qui te dit « viens voir ce qui se passe », tu seras moins tenté d'y aller. Ensuite, supprimer les applications au risque de louper quelques infos. Et s'aider à sortir du FOMO, la fameuse peur de louper quelque chose. J'ai testé plusieurs jours et c'est dingue comme j'y vais de façon machinale plusieurs dizaines de fois par jour. Et au bout d'un moment, lâchant mon téléphone, ou plutôt l'ayant bien rangé, j'y pense moins. Partir de la maison en oubliant le téléphone consciemment est également une piste. Et réussir à ne pas stresser, ou à ne pas faire une crise d'angoisse, ça commence à venir pour moi, mais généralement, c'est plutôt un oubli involontaire. Passer en mode avion une partie de la journée pour être moins déconcentré et donc plus efficace. Réduire le nombre de comptes que l'on suit sur les réseaux sociaux pour rapidement consulter les actualités de notre feed et être au courant des gens qu'on veut suivre. Enfermer son téléphone dans une boîte à cadenas à partir d'une certaine heure est également une piste. Personnellement, j'ai pas testé. Choisir les moments où le téléphone est interdit sous peine que les autres personnes qui vivent avec nous nous donnent un gage. Ça peut être plutôt rigolo. Mettre un chrono dans les paramètres sur certaines applications pour qu'elles se coupent automatiquement quand le temps est écoulé. Ça, j'ai testé et ça fonctionne plutôt bien. Télécharger une application qui surveille la fréquence et la durée de nos consultations d'écran, comme Moment. Personnellement, dans mon téléphone, j'ai un récapitulatif chaque semaine qui me dit le temps moyen passé et sur quelles applications. Le résultat peut faire peur. Ça a été même la source de ma prise de conscience. Alors souvent, nous allons sur nos chers téléphones pour échapper à l'ennui, car vivant dans un monde toujours plus stimulant, le rien devient trop inconfortable. Et le pire, c'est que parfois, on le fait même quand on est avec d'autres personnes. Choisir le minimalisme digital, ou autrement dit, débranche, comme le dit France Gall, c'est ce que propose Cal Newport dans son livre « Réussir sa vie grâce au minimalisme digital ». Et il cite l'exemple de Tyler. Il a renoncé à tous les médias sociaux, s'est tourné vers des moyens plus directs et plus efficaces pour favoriser sa carrière et garder le contact et se divertir. Personnellement, en parallèle de mon choix de me lever le matin, j'ai choisi aussi de ne plus allumer la télé en systématique le soir, car nous étions devenus un peu trop addicts aux séries avec mon mari. 1, 2, 3 épisodes plus tard, nous nous couchions systématiquement vers 23h30 minuit, ce qui avait certaines conséquences le lendemain matin au moment du réveil, comme tu peux t'en douter. Je suis impressionnée de voir le temps que j'ai retrouvé par ce choix. Bien sûr, l'idée étant de le mettre à profit pour des choses qui me nourrissent plutôt que de replonger dans mon téléphone en remplacement de la télé le soir. Et c'est ce que chantait déjà France Gall en 1984. À l'époque, les ordinateurs comme les téléphones étaient filaires, d'où son titre « Débranche ». Néanmoins, je trouve sa chanson encore tellement actuelle. « Le monde tient à un fil et moi je tiens à mon rêve. Rester maître du temps et des ordinateurs, retrouvons-nous d'un coup au temps d'Adam et Ève en coupant les machines à rêve. Débranche, débranche, coupe la lumière et coupe le son. Débranche, débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout et revenons à nous. » Redevenir maître de son temps, et c'est ce qu'observe Tyler dans l'exemple du livre cité précédemment. Clairement, il était très heureux d'avoir changé de vie. Il a entrepris de faire du bénévolat dans son quartier, il pratique un sport régulièrement, lit 3 à 4 livres par mois, apprend à jouer du ukulélé, et depuis qu'il n'a plus un téléphone à la main, est plus proche que jamais de sa femme et de ses enfants. L'auteur continue plus loin. Davantage qu'une modification de ses habitudes numériques, sa décision a été un geste symbolique. Il a renforcé son adhésion à une philosophie minimaliste consistant à procéder à rebours à partir de ses valeurs les plus profondes pour choisir comment vivre sa vie. Les exemples cités sont nombreux dans ce livre avec un degré de minimalisme plus ou moins extrême. Ainsi, il s'agit de protéger sa manière d'utiliser son temps. D'autant que les études montrent clairement le lien entre surutilisation du téléphone et anxiété, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes. Et c'est d'autant plus important pour les générations qui ont grandi avec l'usage du smartphone dès l'adolescence. Cal Newport explique « Un des grands fléaux liés aux écrans est la perte de la solitude, alias le temps passé seul avec ses pensées. » Je le cite. « Nous avons besoin de solitude pour prospérer en tant qu'être humain. Or, depuis quelques années, sans même nous en apercevoir, nous réduisons systématiquement sa place dans notre vie. » Ainsi, il va nous inviter à ne pas être tout le temps joignable, mais à déterminer des plages horaires où on se rend disponible. C'est en partie ce que je fais quand je mets mon téléphone en mode avion pour me concentrer sur mon travail. Je compte sur mon répondeur pour faire le filtrage de ce qui est important ou non. Et je choisirai le bon moment, si c'est le cas, pour recontacter la personne. Ainsi, je peux grouper mes appels et être moins distraite à des moments non choisis. Il y aurait beaucoup à dire sur les stratégies recherchées par les concepteurs des réseaux sociaux pour nous rendre toujours plus addicts à leur plateforme, mais il me semble que chercher des solutions concrètes et expérimenter cela est tout aussi important. Alors je t'invite à piocher ce qui te semble le plus expérimentable et à vraiment essayer. À bientôt !